VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
11h à Abidjan, midi à Libreville au Gabon, Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a nommé aujourd'hui son vice-président. Il a choisi Daniel Kablan Duncan, anciennement premier ministre. Le chef de l'État ivoirien a annoncé son choix dans une adresse solennelle à l'Assemblée nationale. On écoute Alassane Ouattara.
Monsieur Daniel Kablan Duncan est un brillant économiste qui a occupé successivement de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, et en tant que ministre d'État et premier ministre dans plusieurs gouvernements dans notre pays. Grâce à son action à la tête du gouvernement sortant et aux réformes qu'il a entreprises, notre pays a enregistré des résultats exceptionnels dans tous les secteurs et reconnu aussi bien en Afrique que dans le monde entier. Dès mon retour au palais présidentiel, je vais signer le décret nommant Daniel Kablan Duncan vice-président de la République de Côte d'Ivoire.
Alassane Ouattara ce matin à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les États d'Afrique de l'Ouest qui appellent Yahya Jammeh à céder le pouvoir en Gambie ont annoncé lundi l'envoi d'une nouvelle mission à Banjul où Jammeh a limogé hier son ministre de la Communication ainsi que 12 ambassadeurs qui avaient félicité le président élu Adama Barrow. La CEDEAO enverra mercredi en Gambie de nouveaux émissaires. Il s'agit de M. Bouhari, la libérienne Hélène Johnson-Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO, et l'ex-chef d'État ghanéen John Dramani Mahama, déjà parti à Banjul le 13 décembre dernier. Le président Ali Bongo Ondimba a nommé un nouveau ministre du pétrole et des hydrocarbures, Pascal Wagny Ambouré, qui remplace Étienne Dieudonné Ngoubou sur fond de chute des recettes du secteur principal, source de devises de ce pays d'Afrique centrale. Dans un décret rendu public lundi en fin de soirée, M. Bongo a également nommé un ministre délégué auprès du ministre du budget, chargé du budget et du financement des pensions, Edgar Anissé Ndoumbou Miyakou. Le décret ne précise pas les raisons de ce mini-remaniement ministériel, mais comme les autres pays producteurs de pétrole, le Gabon a subi de plein fouet la chute des cours de brut qui a entraîné une baisse des ressources de l'État et des séries de licenciements dans le secteur.
VOA Afrique, en direct de Washington.
On reste au Gabon. La société civile appelle au boycott de la CAN 2017 qui débute le 17 janvier à Libreville. Le 14 janvier, à Libreville. L'environnement politico-économique actuel lié au contentieux de la dernière présidentielle constitue la raison majeure de cette protestation. Georges Mpaga du réseau pour la bonne gouvernance est remonté contre le pouvoir gabonais.
Les élèves au Gabon apprennent à même le sol que M. Ali Bongo n'arrive pas à construire un seul établissement depuis qu'il a pris le pouvoir, que les universités sont en grève, que tout le système de santé est également dans la déliquescence. Organiser un événement si onéreux ne se justifie pas, parce que cet événement ne répond nullement aux besoins et aspirations, aux préoccupations principales des populations du Gabon qui ont du mal à joindre les deux bouts.
Mais on sait que des événements du genre génèrent plutôt des revenus dans le pays d'accueil.
Au Gabon, c'est le contraire, parce que les billets sont aujourd'hui vendus à moins d'un dollar, à 500 francs CFA, ce qui montre qu'il y a un désintérêt de la population. Le Gabon est dans une situation de crise assez catastrophique que le risque d'un affrontement même lors de cette Coupe d'Afrique des Nations est visible dans toute la population.
Georges Mpaga de la société civile gabonaise, joint par Eric Manirakiza. Et pour rester dans le football, c'est officiel. Pour le mondial de football en 2026, la FIFA vient d'approuver le passage à 48 équipes. Le tournoi se jouera en conséquence avec 16 groupes de 3. Le président Muhammadu Buhari du Nigeria a décidé de mettre en œuvre l'une de ses promesses électorales en attribuant une aide financière mensuelle aux plus pauvres et aux plus vulnérables. D'ici la fin de 2017, donc, 1 million de Nigériens en recevront 5 000 naira par mois, environ 25 dollars, directement sur un compte en banque spécifiquement ouvert pour cette aide de l'État. D'ici 2021, le nombre devrait s'élever à 5 millions de personnes. Le Bénin célèbre aujourd'hui, comme tous les 10 janvier, la fête des religions endogènes, encore appelée fête du Vaudoune. approuvée dans les années 90 par Nicéphore Soglo, alors président du Bénin. Elle vise à donner toute sa valeur à ce patrimoine ancestral, selon notre correspondante sur place. Mais certains chrétiens du pays ne cachent pas leur opposition, comme on l'a vu dimanche dans les affrontements qui ont fait deux morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants dans la cité historique d'Abomey. Retrouvons à Cotonou Ginette Fleur Adandé. Reportage.
Déjà bien de décennies qu'on dit du Bénin qu'il est le berceau du vaudou, et cette fête annuelle qui permet aux gardiens de la tradition de promouvoir et de valoriser le culte vaudou sonnait comme une reconnaissance concédée à une religion ancienne mais longtemps restée sous l'ombre des religions dites nouvelles. Pour ces quelques chrétiens rencontrés, les avis restent partagés sur le bien fondé du culte vaudou.
C'est aussi une fête qu'il faut célébrer puisque le vaudou existait avant les autres religions. Qu'on le veuille ou pas, on est toujours en communion avec les manes de nos ancêtres.
Ceux-là sont des esprits infernaux qui viennent troubler la population, qui viennent gâcher leur projet.
Ce n'est rien comparé au diatribe de ce pasteur John Migan qui a adressé une lettre à la Cour constitutionnelle demandant la suppression de la fête des religions endogènes qui, selon lui, décrédibilise le Bénin aux yeux du monde entier. David Kofi Azah est un prêtre du Fa, encore appelé la géomancie. Pour lui, c'est un manque de culture que de dire que le vaudou est un nid de nuisance.
Aucun vaudou ne peut faire le bien et le mal sans la participation et l'action effective de l'homme. Les vaudous, c'est des énergies neutres, donc ils ne répondent pas à notre place. C'est l'homme qui fait du vaudou le bien ou le mal.
Malgré les nombreuses sensibilisations et les appels au respect de la laïcité reconnue par les textes fondamentaux, le vaudou, pour beaucoup de chrétiens, reste un culte satanique. Ricardo Kisui est un doctorant en religion à l'Université nationale du Bénin.
Selon la Bible, eh bien, tout ce qui est idolâtrie automatiquement satanique. Les vaudous, si nous dirons qu'ils ne sont pas idolâtres, mais je dis, mais s'ils sont idolâtres, quel que soit, même si la mode de terre qui représente la sculpture, même si ce n'est pas véritablement l'esprit même qui est matérialisé, mais c'est un lieu de rendez-vous. Et en tant que tel, donc, ils adorent des esprits. Alors que le chrétien n'adore pas des esprits. Le chrétien adore l'esprit. Or, nous savons qu'il y a des esprits positifs et des esprits négatifs. Alors, les esprits positifs ne vont pas dans les arbres, ils ne sont pas dans les bois, ils ne sont pas dans les modes de terre, ils ne sont pas dans les rivières. Donc, ce sont le nid des esprits négatifs. Et en tant que tel, eh bien, ces esprits travaillent pour Satan. Donc, le vaudou est une religion satanique.
En 10 ans de gestion du pouvoir d'État, l'ancien président de la République ne s'est jamais pointé à une manifestation officielle de la fête des religions endogènes au grand mécontentement des gardiens de la tradition qui pensent que Yahi Boni avait un fort penchant pour le christianisme. C'est un test pour Patrice Talon qui, selon les bruits de couloir, pourrait aussi prier par son absence. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Et puis, l'ultimatum du gouvernement kenyan envers les médecins du secteur public en grève. Depuis plus d'un mois, le ministre de la Santé kenyan, Cleopa Melu, a été clair. Le processus de sanctions va commencer demain mercredi pour ceux qui ne reprendront pas le travail. Les autorités marocaines ont interdit la fabrication et la vente de la burqa, voile intégrale musulmane à l'Afghan, qui couvre complètement la tête et le corps. Le ministère de l'Intérieur a diffusé une circulaire à ses agents en charge des commerces dans les villes, leur signifiant de ne plus autoriser la confection et la commercialisation des burqas à compter de cette semaine. Selon plusieurs titres de la presse locale, aucune annonce officielle ou communication publique sur le sujet n'avait cependant été faite par le ministère. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, doit dévoiler aujourd'hui, lors de son premier discours au Conseil de sécurité, son intention de revitaliser l'ONU avec une diplomatie plus affirmée, soutenue par les grandes puissances. L'ancien premier ministre portugais qui a succédé à Ban Ki-moon a déjà laissé filtrer les contours de sa stratégie pour réformer l'organisation et accentuer les efforts pour mettre fin au conflit. Du carnage en Syrie au bain du sang au Soudan du Sud, Antonio Guterres devra faire face à un Conseil de sécurité profondément divisé, incapable de s'accorder sur une décision commune pour mettre fin aux 6 années de guerre civile en Syrie. Et puis Barack Obama fait aujourd'hui ses adieux à la vie politique américaine après 2 mandats à la Maison-Blanche. Le démocrate qui cédera le pouvoir le 20 janvier au républicain Donald Trump a choisi la ville de Chicago, terre de sa fulgurante ascension politique, pour prononcer son dernier discours en tant que président des États-Unis, accompagné de sa femme Michelle et du vice-président Joe Biden. Il va s'exprimer depuis le McCormick Place, au cœur de cette grande ville de l'Illinois, dans le nord des États-Unis. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.